Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 19 mars. Et alors que le printemps commence à arriver, il sera officiellement là dans 2 jours, on va parler du second tour des élections municipales avec un invité qui se fait assez important dans pas mal de débats, notamment dans les communes rurales, c'est celui de la chasse et du lobby des chasseurs. On va parler aussi de la préparation, des préparatifs pour de nouvelles flottilles pour Gaza, avec ce qui risque d'être certainement la plus grande flottille mondiale jamais organisée dans la Méditerranée, pour tenter encore une fois de briser le blocus de Gaza. On va parler de dérives dans l'organisation de l'ordre des médecins épinglés par une enquête du Canard enchaîné, de magouilles aussi, et peut-être même de fraude fiscale au siège social du géant du lait Lactalis. Et enfin, on va commencer avec un nouvel épisode de violence policière sur fond de violence urbaine. C'était à Noisiel. Oui, Noisiel, une petite ville de Seine-et-Marne, où dans la nuit donc de lundi à mardi, du 16 au 17 mars, des vidéos d'une interpellation très violente de 2 hommes par des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, ont fait le tour de la ville et des réseaux sociaux. D'ailleurs, la famille d'une des personnes qui a été interpellée s'est confiée à témoigner dans les colonnes du journal Politis. Donc dans la matinée de ce mardi, on voit une vidéo qui a été tournée la nuit précédente vers 23h, une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit donc une voiture de la police nationale avec donc des membres de la BAC dedans s'arrêter brusquement à l'angle du cours des Roches. On est juste à côté de la gare REL de Noisiel, donc en plein centre-ville. 4 policiers donc, de la BAC sortent du véhicule, flashball, donc LBD en main et grenade lacrymogène. L'un d'eux recharge son arme, fait de grands gestes et lance « Vous voulez jouer? On va vous enculer, vous êtes tous liés ». Désolé pour le langage, mais c'est ainsi qu'il s'exprime, c'est bien de le rapporter quand même. Vous êtes tous liés, hein. Rappelez-vous de ça quand même. Donc s'ensuit un premier tir de LBD, et sur une autre vidéo qui a été mise en ligne aussi, on aperçoit un policier donner un violent coup de pied à une personne à terre. Selon un membre de sa famille qui s'est confié à Politis, c'était un mineur âgé de 15 ans qui s'est pris donc ce coup de pied. Dans la suite de la vidéo, on voit un homme au téléphone qui lui semble sortir d'un snack. 2 policiers s'approchent et leur donnent de dégager, sous peine de lui tirer dessus. L'homme part en marchant, hein, talonné par les 2 agents. Soudain, un des policiers lui assène un coup de pied. L'homme tente alors continuer à essayer de rentrer, de s'en aller, mais l'autre policier le met en joue pendant que son collègue le projette au sol. Une pluie de coups s'abat alors sur l'homme à terre. Dans la confusion, pam, une explosion. La grenade lacrymogène que tenait le policier à la main se déclenche juste à côté du visage de l'interpellé qui est au sol. Les étincelles et le gaz envahissent la rue et ensuite le policier, on le voit jeter au loin cette grenade. Alors le propriétaire du restaurant dont sortait l'individu qui a été interpellé a été contacté aussi par le journal Politis et il explique que c'était un homme, un client habituel, sans histoire. Selon d'autres informations publiées par Assa Traoré sur Instagram, Assa Traoré, la sœur de Adama Traoré, qui est donc une figure médiatique et très engagée dans la lutte contre les violences policières, eh bien cet homme qui s'est fait interpeller violemment par la BAC s'appelle Johnny, on l'appelle Johnny Flavel, il fait partie d'un groupe de musique qui s'appelle Flavel et Netto, il est âgé de 35 ans, père de famille. Une 3e vidéo qui a été filmée depuis un autre angle vient compléter ce tableau, hein. On voit un des policiers traînant cet homme sur le bitume pendant que ses collègues montent la garde. Et celui-ci semble donc ne pas bouger, il est traîné vraiment par terre comme un corps mort. Alors voilà, toutes ces violences ont été donc documentées, elles se passent dans un contexte assez tendu, hein, puisque c'était le lundi 16 mars aux alentours de 23h, une 30aine de personnes cagoulées, des jeunes hommes principalement, ont lancé des feux d'artifice, hein, c'est ce qu'on appelle les tirs de mortier souvent dans les médias. Donc des feux d'artifice et un cocktail Molotov ont été lancés contre le commissariat municipal de Noisiel, c'est ce qu'explique le communiqué de la mairie, et ça fait suite après des interpellations dans le milieu du trafic de drogue, hein, du narcotrafic. C'est ce qu'explique le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, qui a ouvert 3 enquêtes suite à toute cette agitation. Une de ces enquêtes vise justement l'intervention des forces de l'ordre dont je vous ai fait part juste avant. En effet, donc, suite à l'arrestation de ces trafiquants, la police nationale a été appelée en renfort avec plusieurs voitures, dont une avec la BAC, ce qui donne ensuite ce qu'on voit sur la vidéo. Une commerçante de Noisiel, qui a souhaité rester anonyme, qui était présente sur place, a décrit la scène comme chaotique. Elle a d'abord cru à des célébrations en voyant les feux d'artifice, puis a vu les policiers débarquer. Elle explique d'ailleurs aussi que les policiers l'ont elle aussi insultée et lui auraient ordonné de ne pas sortir de son magasin. Selon le parquet de Meaux, 7 personnes en tout ont été arrêtées dans la journée et la soirée. Des informations ont été diffusées par la sœur de ce mineur de 15 ans qui s'est fait lui aussi taper. La victime aurait reçu un tir de LBD, qu'on voit donc dans des vidéos, et plusieurs coups aussi par le policier. Bref, les enquêtes, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une enquête préliminaire pour avoir le temps nécessaire à l'exploitation des nombreux enregistrements vidéo, puisque beaucoup de témoins ont sorti leur téléphone portable, et pour avoir le temps aussi d'identifier le plus grand nombre de participants aux violences. Donc là, on parle du groupe de jeunes qui ont attaqué le commissariat. Ça, c'est ce qu'annonçait le procureur. 2 autres personnes étaient déférées hier au parquet, une pour outrage et rébellion, l'autre en vue d'une comparution immédiate pour provocation en attroupement armé. Et enfin, la dernière enquête donc sur les violences policières a été ouverte et confiée à l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, alors que justement, je vous le disais, une de ces interpellations filmées par des témoins et diffusées sur les réseaux sociaux, eh bien, d'après les mots du procureur, aurait été réalisée dans des conditions de nature à interroger sur sa légitimité, dans son principe, comme dans ses modalités.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, un peu de latin pour s'attaquer à l'ordre des médecins. Cette organisation donc, qui gère la profession médicale est étrillée pour des frais injustifiés et des irrégularités dans sa gestion. C'est même le train de vie de l'ordre des médecins qui est pointé du doigt dans un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui a été révélé dans le média Le Canard Enchaîné. C'était hier. Alors, l'Ordre des médecins, donc, c'est une instance qui va représenter les 341 000 médecins de France, notamment en s'assurant que la déontologie y est respectée. L'Ordre des médecins est financé donc par les cotisations de tous les médecins. Ce sont des cotisations obligatoires, hein, et qui augmentent régulièrement. Cette année, par exemple, c'était 365 euros. Ça fait 1 euro par jour. Eh bien, résultat, donc, l'argent rentre, hein, le budget annuel s'établit à 111 millions d'euros en 2024. Alors, à quoi sert tout cet argent? Eh bien, à des dépenses qui, elles, explosent. La Cour des comptes avait déjà, en 2019, épinglé l'ordre des médecins, mais visiblement, rien n'a changé depuis dans la manière dont ses participants et ses membres se servent de l'argent. Les indemnités des conseillers, hein, c'est le nom qu'on donne, les conseillers de l'ordre national augmentent. Par exemple, le président, il touchait 104 000 euros, il est passé à 120 000 euros par an. Ça, c'était en 2024. Concernant les frais de bouche, donc tout ce qui est lié au repas et aux déplacements, qui sont payés par la carte bancaire de l'ordre quasiment à chaque fois, les repas, on dépasse le plafond des 40 euros par personne, donc on mange bien. Et apparemment, on aime bien aussi les grands vins dans les restaurants. Pour ce qui est des déplacements, lorsque ces conseillers sont en train, ils le font en première classe ou business class pour les longs courriers en avion. Une conseillère de l'ordre des médecins a dépensé 15 000 euros de taxi, elle, sur une année, pas mal. Et en 2024, l'organisation de leur congrès annuel a coûté 1,7 million d'euros. Et ça, c'est donc au niveau national, mais il y a des sous-ordres, un département dans chaque département. Ils sont 103 en tout en France. Il y en a quelques-uns qui abusent aussi un petit peu, qui tapent fort sur la carte bleue. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, le président bénéficiait pour l'année 2024 d'une carte d'abonnement pour emprunter en voiture le tunnel du Prado à Marseille, y compris les week-ends, et c'est 1500 euros par an. Dans les Alpes-Maritimes, l'ordre a acheté, pour implanter son siège, donc du côté de Nice, un ancien hôtel, soit une magnifique bâtisse avec piscine de 1200 m², et elle abrite 7 employés, cette maison. De façon générale, en tout cas, selon l'Inspection Générale des Finances, les défraiements sont irréguliers, les achats non conformes aux règles de commande publique et les dépenses inadaptées et onéreuses. C'est la jet set, quoi, un petit peu chez l'Ordre des médecins. Pour ce qui est de la ville de Paris, dans l'Ordre des médecins, il existe de sérieuses irrégularités dans sa gouvernance et dans sa gestion, explique toujours le rapport. Et le rapport recommande même carrément la dissolution de l'Ordre des médecins de la ville de Paris, tellement c'est abusé. Donc tout ça, vous l'avez compris, c'est financé par les cotisations obligatoires des médecins, mais visiblement pas tous, hein. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, il y en a un qui a été exempté de cotisation car il souffrirait de phobie administrative. Ouais, ou visiblement, il avait un copain dans l'ordre. Alors, cet ordre des médecins est supposé, si on passe un peu par-dessus, au-delà des dépenses, son boulot, c'est de censé assurer que les médecins respectent bien la déontologie. Eh bien, visiblement, ça non plus, il ne le fait pas suffisamment. Et il ne fait pas suffisamment, notamment, le ménage parmi ses effectifs, explique toujours donc cette inspection générale des finances. Dans le rapport, on apprend que des plaintes contre des médecins qui dérapent ne seront pas traitées de façon satisfaisante. Ça peut être, par exemple, on peut citer les violences gynécologiques, hein, qui sont nombreuses, ou d'autres abus de confiance. Les manquements déontologiques ne sont pas toujours sanctionnés. Par exemple, on se rappelle de l'affaire Joël Le Squarnec, qui a été condamné à 20 ans de prison quand même pour viol et agression sexuelle sur près de 300 jeunes patients. Eh bien, l'Ordre des médecins, figurez-vous, avait été saisi par des témoignages il y a 20 ans, mais n'avait jamais entamé de poursuite disciplinaire contre cet ancien chirurgien. Cela illustre donc la défaillance majeure de l'action disciplinaire de l'Ordre, conclut le rapport de l'Inspection générale des finances, qui craint qu'à l'avenir, une telle situation ne se reproduise. La procédure est toujours en cours, on verra ce qu'il en sort.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Allez, encore des magouilles, et cette fois-ci, c'est au siège du géant laitier Lactalis. Alors, c'est ce qu'affirmait donc aujourd'hui au micro d'Issy Mayenne, l'avocat de près de 400 salariés, anciens salariés du géant laitier. Donc l'avocat s'appelle Renaud Portejoie et il parle d'une infraction extraordinairement grave. Tous ces salariés ou anciens salariés accusent en effet la multinationale, dont le siège est à Laval, d'avoir minoré leurs comptes pendant près de 15 ans. Notamment aussi de n'avoir pas versé les bons montants des primes de participation à ces salariés. Et ces montants peuvent atteindre à peu près 10 000 euros hein, quand même par salarié. Au total, la somme qui n'a pas été distribuée représenterait environ 500 à 600 millions d'euros. 500 à 600 millions d'euros donc spoliés durant cette période, explique l'avocat. On parle de sommes qui sont extrêmement importantes avec un enjeu judiciaire pour Emmanuel Besnier et les deux commissaires aux comptes qui sont cités à comparaître, qui est extrêmement important. Donc ces hommes sont accusés de présentation de comptes infidèles. Hein, des magouilles, quoi, ils ont maquillé des choses. C'est une infraction pour laquelle, normalement, on peut aller en prison, notamment avec des centaines de millions d'euros spoliés. Et ce sont bien les salariés de Lactalis qui ont été spoliés, s'indigne toujours l'avocat. L'avocat qui dit avoir plus que des espoirs de remporter cette affaire et espère que Lactalis sera contraint judiciairement de régulariser la situation de l'ensemble des salariés du groupe. Il dit « Je sais que Lactalis a réalisé une fraude fiscale majeure de plusieurs milliards d'euros. » Puisque d'ailleurs, ils l'ont reconnu eux-mêmes en payant après négociation 500 millions d'euros à l'administration fiscale l'année dernière, donc en France. Donc ils ont aussi grugé les impôts. Ils ont donc reconnu à l'époque avoir minoré leurs bénéfices, donc maquillé le bénéfice pour qu'il ait l'air moindre, et donc minoré les primes de participation qui sont dues aux salariés. Donc ils ont été condamnés à une amende envers la France. Mais lui, l'avocat, compte démontrer justement que les comptes sont infidèles et qu'il leur appartient donc de régulariser et de payer ce qu'ils doivent à leurs salariés. C'est un syllogisme qui est absolument imparable, résume-t-il. Il espère une première date d'audience en avril ou en mai, avant un procès, lui, qui devrait, si tout se passe bien, se passer en juin.
Je fais what ? Mais d'où ça sort, quoi ? D'où ça sort ?
Allez, on revient un petit peu sur le terrain rural, en campagne, avec les élections municipales, tous les enjeux qui vont autour. Et là, c'est bien visiblement le lobby des chasseurs qui a repris sa mobilisation autour du manifeste pour la chasse. C'est une alerte qui a été lancée dans les colonnes du journal Reporter, un journal écologiste, donc plutôt lui, opposé à la chasse massive. Et ça fait suite au signalement de notamment 30 millions d'amis ou de l'ASPAS qui s'occupe des espèces sauvages. Alors, le manifeste pour la chasse, c'est un document de 11 revendications qui est destiné donc à promouvoir la chasse comme activité d'intérêt général. mais aussi à protéger les chasses traditionnelles et à valoriser le rôle social, culturel et environnemental des chasseurs sur les territoires ruraux. Nous avons été alertés par des élus qui nous ont transmis ce manifeste en précisant qu'ils avaient effectivement été approchés par des chasseurs ou par la FNC, la Fédération Nationale des Chasseurs. C'est ce qu'explique Lorraine Jacquet, qui est responsable de campagne et de plaidoyer, elle, pour la Fondation 30 millions d'amis. Et elle continue, même des élus nationaux, des sénateurs, ont reçu récemment ce manifeste dans un calendrier qui semble en partie guidé par les élections municipales. Alors ce manifeste est une expression du ras-le-bol des chasseurs qui se disent régulièrement harcelés. Et donc ce manifeste pour la chasse a été déjà publié, c'était à la mi-mai 2025, il y a presque un an, par la Fédération nationale donc. 11 revendications sont portées dans ce document. Et parmi celles-ci, par exemple, la suppression des moratoires européens. Donc les moratoires, c'est quand on interdit de chasser une espèce. Il y en a un, par exemple, sur le canard siffleur, sur le fuligule milouin ou la caille des blés. Et il demande aussi le maintien de toutes les espèces chassables, mais aussi la reconnaissance de la légitimité de toutes les chasses traditionnelles, par exemple les chasses aux alouettes à l'aide de pentes et de matoles qui sont interdites, une réduction significative des populations de loups. Ils veulent aussi le retour à la liste complète des nuisibles et le maintien du piégeage et du déterrage qui sont pratiqués sur les espèces dites nuisibles. On parle des renards, blaireaux, corbeaux, ragondins, fouines. Et enfin, ils souhaitent aussi la liberté de chasser les week-ends, vacances et jours fériés. En mars 2025, 82% des Françaises et des Français étaient favorables à ce que le dimanche devienne un jour non chassé. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'opinion publique. 76% étaient favorables à ce que la période de chasse soit raccourcie du 1er octobre au 31 janvier. Et 70%, eux, se disaient défavorables aux actions de déterrage des blaireaux et des renards, selon un sondage donc, de l'IFPOP. Ça, c'est pour ce qui est opinion publique. Et si on regarde aussi ce qui se dit du côté scientifique, en tout cas de ceux qui observent aussi les conséquences sur l'environnement, eh bien plusieurs des mesures demandées par les chasseurs vont à l'encontre des recommandations scientifiques. Ça, c'est ce qu'explique la chargée de plaidoyer pour la Fondation 30 millions d'amis. Par exemple, le récent rapport dont je vous ai parlé à ce micro la semaine dernière, qui a été produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui reconnaît que la politique d'élimination systématique des espèces qu'on appelle nuisibles, hein, c'est des espèces qui font des dégâts, notamment dans les cultures agricoles, eh bien, que la politique d'élimination par les chasseurs était inefficace et donc dépourvue de fondements scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, mais c'est que visiblement, tirer juste sur les animaux en espérant réduire la population et les dégâts ne marche pas, parce que les écosystèmes, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, pour ce qui est donc de ce rapport, le lobbying donc est rentré en action. Hein. Dès la publication de ce manifeste, c'était, je vous le dis, il y a presque un an, la Fédération nationale des chasseurs avait ciblé déjà ses élus locaux. Pour la plupart, ils nous connaissent, ils savent l'importance de notre réseau rural et constatent l'action des chasseurs sur la biodiversité, le lien social que nous représentons dans la France des territoires. Ce sont les mots du président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schrein. Le document donc, avait été envoyé aux maires des 36 000 communes de France. C'était en suivi, vous vous en souvenez peut-être, une grande mobilisation le 17 mai dernier, durant laquelle des groupes de chasseurs s'étaient rendus dans les mairies pour présenter leur texte et le faire signer. Et de fait, de nombreux maires se sont pliés à l'exercice de bonne grâce en signant favorablement. Par exemple, en Aveyron, en décembre 2025, là, 222 communes sur 285 avaient accueilli favorablement ce manifeste. Sud-Ouest, pareil, hein, 420 maires du Pays Basque et du Béarn l'ont signé, 92 maires en Isère et 300 maires dans les Landes, où on chasse beaucoup. Dans les journaux locaux, le journal Reporter a aussi essayé de documenter cette action de publication, et le journal a recensé une soixantaine de mairies qui ont reçu favorablement une délégation de chasseurs. D'après cette revue de presse, seule l'adjointe au maire de Marans, dans le Maine-et-Loire, aurait refusé de signer le texte. Alors pourquoi donc un lobbying aussi systématique sur le terrain ? La raison est d'abord technique, c'est que le maire en effet a un rôle à jouer puisqu'il peut favoriser les chasseurs en ayant une politique de soutien en fédération, ne serait-ce qu'avec l'attribution de subventions, mais aussi en permettant des rassemblements, en mettant à disposition des locaux publics pour les associations de chasse ou en prévoyant des budgets pour soutenir certaines activités. Le maire a un rôle encore plus important dans certains territoires, puisque notamment il peut interdire la chasse certains jours, il peut créer des espaces non chassés, notamment dans les terrains qui leur appartiennent. Les communes possèdent en effet souvent des terrains. Par exemple, si on est sur une commune avec des marais qui accueillent des oies, cygnes, canards ou autres espèces de ce genre-là, eh bien, il peut y avoir des huttes de chasse et des chasseurs très motivés pour avoir le droit de chasse sur ces parcelles communales. Ça, c'est le sociologue Christophe Batic qui a été interviewé et qui explique aussi les liens entre les fédérations de chasseurs locales et différents réseaux d'influence. C'est en effet tout un jeu de relations qui se joue dans les villages, explique-t-il, qui fait que les chasseurs peuvent espérer une écoute attentive de leur maire. Bon, ils ont droit, hein, ils habitent là. Mais il rappelle que les présidents de sociétés de chasse figurent très souvent sur des listes électorales, car on vient les solliciter, on veut les avoir sur sa liste. Ce sont des figures importantes du réseau local d'influence, en gros. La chasse, comme activité essentiellement masculine et liée au territoire communal, s'inscrit donc dans cette espèce de contexte culturel. On a souvent des listes, hein, on l'entend, ah, ça c'est la liste des chasseurs. Ces relations vont façonner la proximité avec le maire, qui lui n'a pas nécessairement intérêt à s'opposer à la chasse, même si les principes moraux lui poseraient problème. Reste donc que ce mode de fonctionnement n'est pas toujours fluide ni profitable pour la biodiversité. Cela peut avoir des conséquences concrètes, par exemple dans des situations de maltraitance de chiens de chasse. Il pourrait être difficile d'intervenir si le chasseur est proche du maire, ce qui peut bloquer certaines actions des autorités au niveau local. Ça, c'est ce qu'explique toujours Lorraine Jacquet, 30 millions d'amis, qui s'intéresse pas mal aux questions de maltraitance des chiens de chasse, j'imagine. Pour ce qui est des animaux sauvages, donc c'est Yolaine de la Bigne qui a interviewé. Elle est porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Elle explique habiter une toute petite ville en Bretagne et elle parle carrément de peur. Les chasseurs, dit-elle, exercent une pression terrible sur les maires. Ils sont regroupés au sein de fédérations organisées et efficaces, et on peut rajouter armées. Ils ont le soutien des politiques, du gouvernement et souvent des préfets. Les maires ne savent pas comment se défendre. Donc même un maire qui serait plutôt, entre guillemets, anti-chasse, serait peut-être embêté sur place. Donc face à ce lobbying, les associations de protection de la nature entendent elles aussi peser dans le scrutin. Et ainsi, l'ASPAS a appelé à diffuser son contre-manifeste, qui est disponible en ligne, vous pouvez le consulter si vous le voulez, dans lequel elle explique toutes les raisons pour lesquelles elle pense que le manifeste pour la chasse est problématique selon elle. Nous encourageons les candidats, disent-ils, et les futurs élus à se positionner en faveur de la préservation de la biodiversité et de la protection animale, à être à l'écoute des organisations formulant des recommandations de politique locale et à s'inspirer des initiatives mises en place dans d'autres communes pour favoriser la protection des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Contactée par les journalistes de Reporters, la Fédération nationale de la chasse, elle, n'a pas donné suite à leur demande d'interview. On termine ces nouvelles du monde avec des nouvelles des flottilles pour Gaza. Plusieurs flottilles s'organisent et partiront ce mois d'avril, ce qui va former le plus grand convoi humanitaire en mer jamais organisé. Au moins 3 mouvements sont en préparatif. La Freedom Flotilla Coalition, c'est la première, hein, la plus ancienne. La Thousand Madlines to Gaza, dont les groupes, eux, sont plutôt en France. Et enfin, la Global Sumund Flotilla. Voilà, alors la Thousand Madlines est en train d'appareiller. Les bateaux se préparent au port de l'Estaque, près de Marseille, d'où ils partiront, je crois que c'est le week-end du 3 et 4 avril. Actuellement, il y a des discussions à Tunis pour que tous ces bateaux amarrés dans des ports différents puissent se rejoindre et que les 3 mouvements partent ensemble, se retrouvant en mer. Ça représente quand même plus de 100 pays engagés avec ces militants bénévoles. Autant de bateaux, autant de navigants et de navigantes. Je vous le disais, la halte en France se fera à Marseille, donc dans le port de l'Estaque. Et là, c'est juste les préparatifs, mais j'en profite donc pour vous... Pour partager avec vous ce communiqué de la CGT conjoint, écrit de pas mal de groupes CGT. Donc on a la CGT Nord, Nord-Pas-de-Calais, Paris-Yvelines, la CGT Commerce et Services, Services Publics et aussi donc le Syndicat National des Journalistes. Voici ce qu'il y est écrit. Aujourd'hui, plus de 80% des infrastructures de Gaza, habitations, commerces, écoles, universités, hôpitaux, cliniques, installations agricoles et lieux de culte sont détruites. L'économie est à l'arrêt et la situation sanitaire est extrêmement grave. Je vous parlais mardi notamment du problème de la gestion des déchets. Les maladies se propagent sans possibilité de soins adéquats, faute de médicaments et d'équipements. Malgré les efforts pour reconstruire tant bien que mal, les structures hospitalières restantes ne peuvent faire face à l'ampleur des besoins. L'aide humanitaire, pourtant indispensable, n'entre que de manière très limitée. Bien qu'un cessez-le-feu ait été annoncé en octobre 2025, les habitants de Gaza continuent de mourir sous les bombardements et les tirs israéliens, mais aussi à cause de l'effondrement de bâtiments endommagés ou des conditions de vie dramatiques, marquées par la faim et le froid. Le bilan humain est terrible, plus de 70 000 morts officiellement recensés, un chiffre finalement reconnu par Israël, et selon plusieurs spécialistes de la démographie en temps de guerre, un nombre réel probablement bien supérieur. À ajouter à cela près de 200 000 blessés et des dizaines de milliers de personnes, elles toujours portées, disparues sous les décombres, ou même, comme j'en ai parlé il y a 2-3 semaines, de manière assez terrible, des personnes qui se seraient carrément volatilisées, évaporées par la puissance des bombes déployées. Après plus de 70 000 tonnes de bombes justement larguées par l'armée israélienne, le déblaiement et la reconstruction prendront des années et nécessiteront des moyens considérables. Par ailleurs, l'armée israélienne continue d'occuper une grande partie du territoire de Gaza, tandis que les Palestiniens, déplacés à de multiples reprises, tentent de survivre dans les ruines ou dans des camps de tentes surpeuplés, privés des services sanitaires et médicaux les plus élémentaires. Ces horreurs continuent de se jouer à huis clos, puisque le gouvernement d'extrême droite israélien empêche l'accès à la bande de Gaza, notamment à la presse internationale, et ce, au mépris du droit à l'information et la liberté de la presse. Par ailleurs, vous le savez, 261 journalistes ou travailleurs des médias palestiniens ont été tués par Israël depuis le 7 octobre 2023, faisant du territoire palestinien l'endroit de loin le plus meurtrier au monde pour la presse sur cette période. Ce sont des chiffres un décompte de la Fédération internationale des journalistes. On reprend le communiqué. Dans ce contexte, Donald Trump a présenté un projet qui viserait de facto à vider Gaza de sa population pour transformer ce territoire en zone économique, lucrative et touristique, tout en exploitant les ressources gazières offshore. Un gouvernement intérimaire de technocrates, qu'il présiderait à vie, serait chargé de l'administration et de la reconstruction. Les Palestiniens de Gaza, jamais consultés, se verraient ainsi une nouvelle fois privés de tout contrôle sur leur avenir. Une telle situation constitue une violation flagrante du droit international, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, des droits humains et du droit humanitaire, ainsi que des lois de la guerre. La CGT, puisque c'est elle qui a écrit ce communiqué, la CGT n'a cessé de dénoncer la situation. Fidèle à son engagement pour la justice et le respect du droit, elle s'oppose à l'usage de la force au service de la politique coloniale d'un État accusé par plusieurs ONG internationales de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et même de génocide. C'est pourquoi nos organisations ont décidé de rejoindre les initiatives citoyennes des flottilles maritimes qui, à plusieurs reprises, ont tenté d'acheminer de l'aide vers Gaza et qui s'apprêtent à reprendre la mer au printemps. Cette démarche est pour nous un acte politique de solidarité avec un peuple soumis à la colonisation et à l'oppression. Il s'agit d'affirmer le droit des Palestiniens à Gaza, comme en Cisjordanie occupée, à vivre dignement, à accéder à leur liberté, à la santé, à l'éducation et à un avenir pour leurs enfants, ainsi que leur droit à vivre sur leur terre et à y retourner. Nous apporterons également une aide humanitaire, certes modeste, face à l'immensité des besoins, mais qui constitue un geste de solidarité utile face au dénuement du peuple de Gaza, à un moment où les États et les médias, après s'être brièvement tournés vers elle, semblent à nouveau détourner leur regard. Par cette initiative, donc les flottilles, nous voulons aussi interpeller les gouvernements et les pousser à assumer leurs responsabilités, à dénoncer et à agir enfin. Des dizaines de bateaux venus du monde entier vogueront vers Gaza pour rappeler que les valeurs de solidarité et d'humanité demeurent les seules capables de porter un espoir de paix. Nos organisations appellent aussi ainsi les structures de la CGT à contribuer financièrement à l'achat de bateaux pour soutenir cette initiative. La tradition internationaliste de la CGT, son engagement constant en faveur du peuple palestinien, du droit international et de la paix, trouveront à travers cette campagne une nouvelle occasion de s'exprimer. Voilà, ainsi se termine ce communiqué. Il y a d'ailleurs un lien pour participer financièrement à l'organisation de cette flottille. Hein. C'est payasso.fr, UDCGT Nord, Solidarité Palestine. Voilà, vous le retrouverez facilement. Il a donc un communiqué diffusé par le Syndicat National des Journalistes CGT, mais je vous le disais, qui comprenait de nombreuses autres organisations syndicales. Et à noter qu'un article, une interview très intéressante a été mise en ligne dans le média Alter Midi, qui a une antenne aussi chez nous sur Radio Escapade. Donc c'est un article qui a été mis en ligne ce 16 mars, qu'interview des participants, des organisateurs. pour expliquer un petit peu justement comment tout cela va se passer. Voilà cette flottille donc, qui va en partie appareiller du port de Marseille. J'espère vous en reparler beaucoup plus en détail dans les semaines qui viennent. On va essayer un petit peu de suivre l'affaire de près et d'avoir des interviews à vous proposer. Allez, c'est ainsi que se terminent ces nouvelles du monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, bon, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.